Péroi, Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 27 mai 2022. Avec vous, Eric Manilakiza, voici d'abord le sommaire. Ouverture aujourd'hui à Malabo du sommet extraordinaire de l'Union africaine en RDC. Les combats entre l'armée et le M23 ont entraîné plus de 72 000 déplacés en 8 jours, selon l'ONU. Aux États-Unis, se tient la grand-messe de la NRA, le lobby des militants pro-armes, 3 jours après la fusillade dans une école primaire de Valdez au Texas. La finale de la Ligue des Champions oppose demain samedi Liverpool au Real Madrid au Stade de France à Saint-Denis.
Mais Mané aussi fait une année formidable. Et demain, nous savons tous que voilà, tout Dakar sera derrière Mané. Le prochain ballon d'or, le ballon d'or de cette année, se dessinera sûrement demain.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire s'est ouvert ce matin à Malabo en Guinée équatoriale. Les chefs d'État partenaires au développement ainsi que les Nations unies discutent de l'assistance à apporter à des millions de personnes qui ont besoin d'aide. Le point avec notre correspondant à Malabo, Samuel Obiang Mbana.
Plus d'une quinzaine de chefs d'État africains ont effectué le déplacement de Malabo, la capitale de Guinée équatoriale, pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire en Afrique. Le sommet se tient en parallèle à la conférence des donateurs. L'objectif est de mobiliser les fonds pour venir en aide à environ 115 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en Afrique. Le président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a dû écourter le séjour à Malabo en raison du drame de 11 bébés morts dans un incendie d'un hôpital dans son pays. Le chef de l'État sénégalais a toutefois annoncé que son pays, le Sénégal, donne 3 millions de dollars pour les actions humanitaires en Afrique. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire précède la tenue demain, samedi, du sommet extraordinaire sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels du gouvernement en Afrique.
Beaucoup de Sénégalais ont été choqués par la fin tragique de 11 nouveau-nés dans un incendie à l'hôpital de Tivoine dans l'Ouest. Les patients résignés s'en remettent à Dieu pour que cessent les drames en série dans les hôpitaux du Sénégal. Un certain nombre disent attendre plus que le limogeage du ministre de la Santé annoncé jeudi. Devant les carences mises cruellement en lumière par des incidents à répétition, ils ont bien peur que de tels deuils ne se renouvellent. Le Bénin a connu près d'une vingtaine d'attaques de groupes armés, a indiqué jeudi le gouvernement. C'est la première fois que le gouvernement béninois donne un bilan global de ces attaques qui ont officiellement commencé fin 2021. Dans l'est de la RDC, le HCR indique que depuis mardi, plus de 72 000 personnes ont fui leur maison pour échapper au combat entre l'armée et les rebelles du M23. Le point avec Ginny Niwa.
Les affrontements ont repris mardi dans le territoire de Rutshuru et se sont étendus au territoire voisin de Nyiragongo, au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Depuis novembre dernier, les combats dans l'Est ont chassé au moins 170 000, se rajoutant plus de 1,9 million de personnes déplacées dans le Nord Kivu. Il manque de nourriture, d'eau potable, d'équipements de base, précise le Haut Commissariat aux réfugiés HCR. Les milliers de déplacés récents se sont installés tant bien que mal dans des églises, des écoles, ce qui les expose au choléra, au paludisme et autres maladies, soulignent les organisations humanitaires. La RDC accuse de nouveau le Rwanda de soutenir ses rebelles, ce que Kigali a encore une fois démenti.
4 officiers, 4 autres militaires subalternes et 3 civils ont été condamnés à mort vendredi par le tribunal militaire de l'Ituri dans le nord-est de la RDC pour avoir vendu des armes à des miliciens. Toujours en RDC, au moins 17 cadavres ont été découverts en Ituri. Selon un membre de la société civile de la chefferie de Walese-Vonkutu, c'est difficile d'identifier les victimes en raison de l'état des corps. 2 journalistes ont été arrêtés jeudi en Éthiopie, ont annoncé vendredi leurs collègues portant à au moins 12 le nombre d'employés de médias détenus depuis une semaine dans le cadre d'une vague d'arrestations qui suscite l'inquiétude internationale. L'ONG SOS Méditerranée, dont le navire humanitaire Ocean Viking compte à son bord 296 rescapés, a lancé vendredi un appel aux autorités maritimes compétentes afin de pouvoir débarquer dans un port sûr, certains migrants ayant un besoin urgent de soins. Malgré ces demandes, aucune solution n'est trouvée pour les 296 femmes, hommes et enfants actuellement à bord de l'Ocean Viking, qui ne peut être qu'un abri temporaire, ajoute l'ONG.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La NRA, le puissant lobby pro-armes américain, organise aujourd'hui son assemblée annuelle au Texas en pleine polémique, 3 jours seulement après l'effroyable fusillade dans une école de cet État américain. Jacques Aristide.
La NRA tient sa grand-messe en présence de l'ancien président Donald Trump. Selon lui, les États-Unis ont besoin de vraies solutions et de vrai leadership en cette période. Pas de politiciens et de considérations partisanes, dit-il. Cette réunion de la NRA se déroule au moment où la police est également sous le feu des critiques, soupçonnée d'avoir mis trop de temps à intervenir à l'école d'Uvalde. Outre les 21 tués, 17 personnes ont été blessées, dont 3 policiers. Mardi dernier, l'auteur de cette toute dernière fusillade, un adolescent de 18 ans, avait tiré sur sa grand-mère avant de se rendre à l'école avec son fusil d'assaut semi-automatique. Hier, le fabricant de cette arme a indiqué qu'il n'irait pas à la convention de la NRA. Avec son épouse Jill, le président Joe Biden doit se rendre à Uvalde ce dimanche pour partager le deuil de la communauté de cette petite ville bouleversée par l'un des pires massacres par arme à feu ces dernières années dans le pays.
Jacques Aristide, la Chine s'est estimée calomniée par le discours du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine a dit hier dans un discours que Pékin posait le risque le plus sérieux de remise en cause de l'ordre international. N'est-ce pas, Jean-Roger Bion?
Le but de ce discours était d'endiguer et de bloquer le développement de la Chine et de maintenir l'hégémonie et la puissance américaine, a estimé aujourd'hui un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Ce discours a répandu de fausses informations, exagéré la menace chinoise, il s'est ingéré dans les affaires intérieures de la Chine et a calomnié sa politique intérieure comme extérieure, a dénoncé M. Wang devant la presse. Dans un discours hier sur la Chine, Anthony Blinken a estimé que Washington est engagé dans une vigoureuse compétition avec Pékin dans le but de préserver l'ordre mondial, mais a démenti toute volonté d'entrer dans une nouvelle guerre froide. L'intervention de M. Blinken a remis la Chine au centre des préoccupations des États-Unis après plusieurs mois monopolisés par la guerre en Ukraine. La vision de Pékin nous éloigne des valeurs universelles qui ont soutenu beaucoup de progrès dans les 75 dernières années, a affirmé le secrétaire d'État américain.
Les forces russes intensifient leur offensive. Donbass semblant près d'achever l'encerclement d'une importante agglomération de cette région de l'est de l'Ukraine. Les forces séparatistes et pro-russes ont revendiqué la prise de la localité clé de Liman. Ni l'armée russe ni l'armée ukrainienne n'ont immédiatement commenté cette information. Les États-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions financières à la suite des derniers tirs de missiles nord-coréens visant notamment deux banques russes accusées de soutenir le programme d'armes et de destruction massive de la Corée du Nord. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et l'accès au marché américain leur est barré. Les dirigeants de Cuba, du Venezuela et de Bolivie sont réunis vendredi à la Havane pour exprimer le rejet ferme de la décision de Washington d'exclure certains pays latino-américains au prochain sommet des Amériques qui doit se tenir le 10 juin à Los Angeles. La justice espagnole a mis hors de cause l'ex-ministre espagnol des Affaires étrangères, Arantxa González. Elle était visée par une enquête sur l'entrée en Espagne en avril 2021 du chef des indépendantistes sahraouis du Polisario. L'ancienne ministre a réaffirmé que l'entrée de Brahim Ghali s'est faite pour des raisons humanitaires et dans le cadre de la loi et assuré qu'il reprendra aujourd'hui la même décision. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. La Minute Éco, c'est dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Rosine Mounedzer.
Le Malawi a annoncé jeudi la dévaluation de 25% de sa monnaie nationale, le kwacha, dans l'espoir d'enrayer une hémorragie de ses réserves en devises et de limiter l'inflation. Cette annonce intervient alors que le pays, en difficulté financière, a entamé des discussions avec le FMI en vue d'obtenir de l'aide. Cette dévaluation, la plus importante depuis 10 ans, sera effective à partir de vendredi, a précisé la Banque centrale du Malawi. Lors du Forum économique mondial de Davos, la ministre nigériane des Finances, Zainab Ahmed, a déclaré que les recettes d'exportation de pétrole de son pays suffisent à peine à couvrir ses importations d'essence. Une situation qu'elle impute à la chute de la production pétrolière qui est tombée sous la barre de 1,3 million de barils par jour en avril, alors que le gouvernement tablait en 2022 sur une production de 1,8 million de barils par jour. Ici aux États-Unis, la flambée des prix a ralenti en avril, selon l'un des principaux indices d'inflation dans le pays, publié vendredi. L'inflation s'est élevée à 6,3% sur un an en avril, contre 6,6% en mars, selon l'indice PCE du département du commerce. Et sur un mois, le ralentissement est encore plus marqué, à 0,2% contre 0,9% le mois passé. Touchés par l'inflation, les Américains ont ralenti leurs dépenses par rapport au mois précédent.
Nous passons directement à votre page d'espoir avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bagassi, tous les regards sont tournés vers Paris. Ville de lumière pour la finale demain de la Ligue des Champions.
Oui, et demain à 19h, temps universel, au Stade de France à Saint-Denis, ce sera la troisième fois que vont s'opposer à ce niveau de la compétition Liverpool et le Real Madrid. Ce sera bien sûr l'affiche la plus souvent disputée de l'histoire de la C1 à ce stade de la compétition. Les Reds ont remporté la première édition en 1981, 1-0, déjà à Paris, mais au Parc des Princes, le club merengue la deuxième en 2018, 3-1 à Kiev. En toile de fond aussi demain, une compétition pour le Ballon d'Or 2022 entre le Français Karim Benzema, joueur de grâce pour qui tout réussit cette année, et le Sénégalais Sadio Mané qui a mené en début d'année les Lions sur le toit du football africain avec ce sacre à Yaoundé au Cameroun. Sadio Mané co-dirigera l'attaque des Reds avec la star égyptienne Mohamed Salah.
En Côte d'Ivoire, Bagassi, on connaît les 25 joueurs convoqués par le nouveau sélectionneur.
Oui, et le nouveau sélectionneur, le Français Jean-Louis Gasset, nommé il y a une semaine, a rendu public hier cette première liste de 25 joueurs sans surprise pour les qualifications de la CAN 2023. Le Français a retenu les mêmes joueurs que ceux ayant disputé les rencontres amicales jouées à l'extérieur, défaite contre la France 2-1 et contre l'Angleterre 3-0 en mars. La Côte d'Ivoire reçoit la Zambie le 3 juin dans le nouveau stade de Yamoussoukro avant d'affronter 3 jours plus tard le Lesotho en Afrique du Sud. Ces qualifications n'auront pas d'incidence sur la participation de la Côte d'Ivoire puisqu'elle est le pays hôte de la prochaine CAN et de ce fait y participe automatiquement.
En tennis, Bagassi, victoire de l'Argentin Diego Schwartzman face au Bulgare Grigor Dimitrov.
Oui, Diego Schwartzman, 16e mondial, a dominé vendredi au 3e tour de Roland-Garros le Bulgare Grigor Dimitrov 6-3, 6-1, 6-2 et va donc affronter le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 8e de finale. Après des débuts un peu compliqués, il a dû remonter 2 sets de retard face à l'Espagnol John Munar au 2e tour. Le demi-finaliste de l'édition 2020 monte en puissance.
Enfin, basketball, revoilà les Warriors en finale NBA, Bagassi.
Oui, 3 ans après, Golden State fait son retour en finale NBA. Les Warriors, portés par Klay Thompson, comme à ses plus belles heures, ont remporté 120 à 110, un 4e succès contre les Mavericks. Malgré le sursaut tardif de Luka Doncic jeudi en play-off, après 2 saisons à broyer du noir, à soigner des blessures, mais aussi à reconstruire un effectif compétitif, la franchise californienne, qui a dominé le championnat dans la seconde partie de la décennie précédente, effectue un formidable retour en pleine lumière. Elle va disputer sa 6e finale en 8 ans. Serviette sur la tête et sourire en coin, Stephen Curry pouvait justement savourer l'instant pendant que les dernières secondes s'écoulaient. Le regard perdu dans ce passé glorieux qu'il peut à nouveau toucher du doigt.
C'était les sports avec Bagassi Koura. Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. À l'ouverture du forum de Bamako consacré cette année aux questions de paix, de développement et du rôle de la femme, l'imam Mahmoud Diko a pris la parole pour fustiger l'attitude des autorités maliennes et de la communauté internationale qui empêche le pays de sortir de la crise. Notre correspondant Mohamed Danyoko a recueilli quelques réactions. Son reportage.
Le sujet dominant dans les rues de Bamako et même des salons feutrés est sans doute la dernière sortie de l'imam Mahmoud Diko à l'ouverture du forum de Bamako. Devant des centaines d'invités venus de l'Afrique et de l'Europe, il a accusé les autorités de la transition d'être arrogants et la communauté internationale d'être orgueilleuse. Deux attitudes, selon lui, qui ne permettent pas de trouver une solution de sortie de crise. Hamadi Diko, citoyen malien, pense que l'imam n'a dit que ce qui est vécu par les populations.
Ce qu'il a dit, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut partager. Quand il dit que nos gouvernants sont dans une situation d'arrogance et la communauté internationale est dans leur orgueil, donc on n'arrive pas à avoir des accords et le peuple est dans leur faim et dans l'insécurité et tout ça là. Bon, c'est des faits qu'on voit aujourd'hui.
Bourié Massou, le journaliste, estime lui aussi que Mahmoud Diko n'a fait que dire tout haut ce que pensent des millions de Maliens.
Je crois que cette déclaration ne doit pas faire du bruit parce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Depuis l'avènement de ces autorités à la tête du pays, on voit quand même un statu quo, un immobilisme à la tête de l'État. Il n'y a pas une volonté de faire quelque chose pour avancer. Donc, chaque fois, c'est des ping-pong, des déclarations hostiles, c'est des bras de fer. Donc, il y a ça. Un pays qui est en crise, un pays qui est sous l'oxygène de la communauté internationale, on ne devait pas se tenir comme ça. Selon lui, sa pensée. Donc, moi, je crois que sa pensée, on ne doit pas. Connaissant Mahmoud Diko, tous les Maliens le connaissent. Il a toujours dit ce que les Maliens pensent bas.
Pour Amadou Kouyaté, il n'y a pas lieu de polémiquer sur cette sortie car l'imam, comme tout autre Malien, a le droit de se prononcer sur la situation du pays.
Il est Malien comme les autres, donc il a un avis à donner sur la situation sociopolitique du pays.
De nombreuses personnalités que nous avons voulu faire réagir ont préféré garder le profil bas en disant que l'heure n'est pas à la polémique, mais plutôt de faire l'union sacrée autour du Mali. Et du côté des autorités militaires, pour le moment, il n'y a aucune réaction. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Gabon et le Cameroun ont convenu de retracer leurs frontières de près de 300 km et de mettre fin aux affrontements fréquents entre les communautés frontalières. Lors d'une réunion dans la capitale camerounaise jeudi soir, les deux parties ont également convenu le déploiement conjoint de leurs armées pour arrêter le trafic d'armes. Reportage de Moki et d'une Kinzeka Yaoundé avec le récit de Abdourahmane Dia.
Les responsables camerounais et gabonais ont terminé jeudi une réunion de 3 jours. Ils se sont accordés sur une meilleure délimitation de leurs frontières communes et d'améliorer la sécurité. La réunion, à laquelle ont pris part des représentants de la France, de l'Allemagne et de l'ONU, a recommandé un plan triennal pour définir la frontière. Aimé Roger Moulungi Maganga est secrétaire général de la Commission nationale des frontières du Gabon.
L'accord franco-allemand est suffisamment clair. La question, ou du moins l'impératif actuel, c'est la matérialisation de cette frontière. Les bornes ne sont plus suffisamment visibles. Donc il faut poser les bornes, les rendre visibles, de telle sorte qu'on ait la possibilité, à partir de cet instant, de savoir que ce qui sera en principe posé comme indice sur le linéaire frontalier soit la plus apparente possible pour les deux parties.
Bien qu'il n'y ait jamais eu de dispute sur leurs frontières communes ayant abouti à un affrontement armé entre les deux pays, la sécurité frontalière a toujours été un problème. Les communautés des deux côtés se sont affrontées au sujet des ressources naturelles comme les minéraux, le sable, l'eau et le bois. Le Cameroun affirme qu'en mars, des villageois ont bloqué un pont vers le Gabon pour protester contre les troupes gabonaises exigeant des droits de douane, une accusation démentie par le Gabon. Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atanganji, a déclaré que les militaires des deux pays ont convenu d'effectuer des contrôles conjoints aux frontières pour arrêter le trafic d'armes.
Nous avons le terrorisme, le trafic d'armes, l'exploitation illégale de nos ressources et c'est pourquoi il est important d'accentuer la surveillance et le renseignement car nous avons besoin d'informations. Alors, quand nous identifions les défis et que les forces de sécurité sont mises en place, nous pouvons anticiper tous les dangers.
L'an dernier, le gouvernement de Yaoundé a déclaré que des combattants séparatistes en fuite déguisés en personnes déplacées ont été arrêtés à sa frontière sud avec la Guinée équatoriale et le Gabon. Avant cela, le Gabon avait fermé en 2019 les points de passage vers le Cameroun après une tentative de coup d'État contre le président Ali Bongo, affirmant que les putschistes se cachaient de l'autre côté de la frontière. Lors de la réunion cette semaine, les deux parties ont convenu d'utiliser la carte des frontières dessinée par les anciennes puissances coloniales comme document d'orientation. La délégation gabonaise était conduite par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matin.
Heureusement que nous avons la coopération de GIZ qui nous permet avec les instruments de dernier cri de pouvoir être sur le terrain. Nos experts ont y été. Une feuille de route a été élaborée et cette feuille de route qui décline les actions qu'il y a à faire tout le long de ce tracé. Les zones qui ne l'ont pas encore été visitées vont être progressivement jusqu'à la tenue de la prochaine commission qui aura lieu à Libreville.
La frontière a été établie par les anciennes puissances coloniales, l'Allemagne et la France, à la fin du 19e siècle et finalisée en 1908. Depuis, elle est restée inchangée après l'indépendance des deux pays en 1960.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les fusillades de masse aux États-Unis, comme celle qui a eu lieu à Uvalde, au Texas, continuent de choquer les gens à travers le monde. Ce qui est moins visible, toutefois, c'est le nombre de décès quotidiens par arme à feu chez les enfants de 14 ans et moins. Selon des chercheurs, les armes à feu sont la première cause de décès chez les enfants américains. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
Mon petit-fils a reçu 2 balles. Il a reçu 1 balle dans la poitrine de très près et 1 autre dans la tête, comme une exécution.
Malachi Jackson, abattu à Washington DC le mois dernier, n'avait que 15 ans. D'après sa grand-mère, un suspect a été arrêté et une enquête criminelle est en cours.
Cela a commencé par une dispute entre 2 enfants. À Washington DC, ces enfants ont des armes comme ils ont des glaces. Ça ne devrait pas être si facile pour un enfant d'avoir une arme.
Malachi Jackson figure parmi les 500 adolescents tués cette année par des armes à feu, selon la Gun Violence Archive. Il s'agit de cas d'homicide, mais aussi accidentels. Mark Bryant, directeur exécutif de la Gun Violence Archive.
Les adolescents de 12 ans et plus, de 11 ans et plus, peuvent être victimes de gangs ou toutes sortes de choses. Les enfants de moins de 10 ans, lorsqu'ils meurent par arme à feu, ils ont trouvé l'arme de leur père qui n'est pas correctement rangée, ils jouent avec ces armes et ils ne savent pas comment les manipuler.
Les fusillades survenues ce mois-ci à Uvalde au Texas et à Buffalo dans l'État de New York ont choqué la planète entière. Mais pour des chercheurs américains, c'est une véritable épidémie. Le nombre de jeunes tués par balle a augmenté de près de 30% en 2020. Ce type de violence tue plus d'enfants que les accidents de la route, les overdoses de drogue et même le cancer. Mark Zimmerman, professeur à l'Université du Michigan.
Parfois, c'est l'accessibilité à des armes à feu qui ne sont pas les leurs. Et parfois, c'est l'intimidation qui se produit à l'école. Près de 60% de tous les décès par arme à feu sont en fait des suicides et la plupart d'entre eux se produisent dans les zones rurales.
Gregory Jones est psychologue.
Le trouble de l'anxiété est le diagnostic le plus courant, en particulier lorsqu'il y a une consommation de substances psychoactives. Nous trouvons des comportements d'autodestruction et de destruction des autres à un niveau que nous n'avons jamais vu.
La grand-mère de Malachi Jackson et d'autres familles de victimes appellent les élus à garantir que les enfants n'aient pas accès aux armes à feu.
Il y a des morts dans nos rues tous les jours, 2 ou 3 enfants par jour. Nous sommes indignés, nous sommes tristes, nous sommes confus. Nous avons besoin de lois plus strictes.
La NRA, la National Rifle Association, qui réclame depuis des années un assouplissement des lois sur les armes à feu, n'a pas répondu à notre demande d'interview. D'ailleurs, la convention annuelle de la NRA débute ce vendredi à Houston, au Texas. C'est seulement quelques jours après qu'un jeune, armé d'un fusil d'assaut, a massacré 19 enfants et 2 enseignants à l'école primaire d'Uvalde, au Texas.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'événement de la planète foot se joue demain au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris. Pour la 3e fois, la finale de la Ligue des Champions oppose Liverpool au Real Madrid. Ce sera aussi un trône pour 2 stars, le goleador français du Real Madrid, Karim Benzema, et l'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, s'affrontent pour un duel en forme de dernière marche vers le Ballon d'Or. Bagasikoura a joint Ibrahim Togola, consultant sportif à Paris.
La ville de Paris vit déjà au rythme de la finale de demain parce que les raids des supporters de Liverpool sont venus en masse. La préfecture de Paris déclare déjà 60 000 personnes qui sont déjà ici sur place et les dispositifs policiers ont été renforcés. Liverpool a également des supporters partout dans le monde et ici en France, et plus précisément à Paris, il y a 300 personnes qui se sont mobilisées hier pour accueillir ceux qui sont venus d'autres pays.
Ce n'est pas la première fois que ces deux équipes s'affrontent à ces stades. Quels sont les atouts de chacune des deux équipes?
Exactement comme vous l'avez dit, en fait, il y a 41 ans, plus précisément en 1981, les Reds ont rencontré en finale de la Ligue des Champions, en fait, le Real Madrid, et Liverpool s'est imposé par 1-0. Donc, nous pouvons dire que demain, c'est un match, c'est une revanche pour le Real Madrid. Mais si nous essayons de regarder, en fait, le poids des deux équipes, pensons que Liverpool, pas un peu favori, vit, en fait, les derniers matchs qu'ils ont fait. Le Real Madrid, lors des quarts de finale et des demi-finales, a encaissé 4 buts en aller-retour contre Chelsea et 5 buts contre Manchester City. Mais le Real a aussi des atouts, parce que le Real compte demain sur son attaque Benzema. Liverpool a une défense voilà, qui tient bon et une attaque de feu avec Salah et Mané. Et c'est un match dans un match également, parce que le vainqueur demain entre Mané et Benzema peut prétendre au Ballon d'Or cette année.
Alors, vous parlez de ces deux joueurs. Hein, c'est qu'au Sénégal, à Dakar, la majorité des gens seront pour les Reds. Quel est le talent que présente chacun des deux, notamment Mané et Benzema?
Cette année, Benzema a été le moteur du Real Madrid. Il a toujours répondu quand l'équipe était en difficulté. Il a toujours répondu quand ses coéquipiers avaient besoin de lui. Donc, il est au sommet, en fait, de sa carrière. Ça fait beaucoup d'années, plus de bientôt 10 ans, qu'il joue avec le Real Madrid, mais il n'a jamais eu une année aussi complète comme cette année. Donc, quant à Mané, après une année formidable avec l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique, ils sont qualifiés également pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et malheureusement, certes, les Reds n'ont pas gagné le championnat en Angleterre. Mais Mané aussi fait une année formidable. Et demain, nous savons tous que voilà, tout Dakar sera derrière Mané. Et le ballon d'or, le prochain ballon d'or, c'est le ballon d'or de cette année, se dessinera sûrement demain. Et que ce soit Mané ou Benzema, le vainqueur aura un pas en avant sur le sol challenger.
Ibrahim Togola, consultant de football, joint à Paris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Lionel Runamira Gahima et Fatou Alimassi. Au micro, Eric Manela-Kizan, ici dans le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, vous pouvez nous suivre sur VOA.